Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Bien, dans plusieurs familles en République démocratique du Congo, il y a des personnes qui ont développé une dépendance envers d'autres, soit envers un frère ou une sœur par rapport à sa position sociale. Cette personne est appelée à Kinshasa, par exemple, les condis à famille, c'est les bienfaiteurs de la famille, il a beaucoup de moyens. Alors tout le monde, lorsqu'il y a un problème dans la famille, bon, tous les regards se tournent vers cette personne. Elle assiste financièrement, ses proches, et elle est respectée par tout le monde dans la famille. Tout le monde compte sur cette personne. Alors, quelles sont les causes, les conséquences et comment remédier à ce problème social? Adélard Kwanza Kai, sociologue, bonjour.
Adélard. Allô, oui. Je suis en ligne, je vais écouter. Oui.
Voilà, bonjour professeur Adélard, et nos meilleurs voeux.
Merci, pareillement.
Alors, nous parlons du phénomène les condis à famille. Cette personne dans une famille sur qui tout le monde compte, quelles sont les raisons qui sont à la base de cette situation, professeur?
Bon, vous avez bien situé la question au départ. Hein. C'était le monsieur solution, qui résout tous les problèmes, qui est pourvu de tous les moyens,
oui.
Et qui ne manque de rien. Donc, c'est ce monsieur-là, qu'on appelle, comme vous avez bien dit, l'icondi à famille.
Mmh.
C'est un phénomène essentiellement urbain, un phénomène qui est apparenté dans certains aspects au parasitisme familial. Quand ces aspects n'ont rien à voir avec la solidarité clanique. Et c'est un phénomène, vous l'avez aussi dit, qui crée une sorte de dépendance qui, à terme, peut déboucher sur des conflits familiaux si le bailleur en question ne pourvoit pas tous les besoins de membres de sa famille, ou bien s'il ne répond pas aux demandes de certains d'entre eux. Bon, donc ce phénomène a beaucoup de causes.
Oui.
On peut en épingler quelques-unes. Il y a d'abord la pauvreté, bien sûr, la pauvreté qui mine beaucoup de gens, beaucoup de familles ici à Kinshasa, avec cause de la pauvreté, entre autres, la crise économique que connaît notre société.
Oui.
Il y a également le chômage ou les pertes d'emploi qui fait que les gens qui deviennent des chômeurs, qui ont perdu leur emploi, cherchent des moyens de survivre et dans ces cas, ils accourent à certains de leurs membres de famille, notamment à celui qu'on appelle, à celui qui est censé résoudre tous les problèmes, à laisser les solutions. Il y a également la retraite, la vieillesse, la maladie, la retraite. Le retraité, le pensionné, les vieillards et qui n'ont plus rien à faire, qui ne travaillent plus, qui ne peuvent plus pourvoir à leurs besoins, courent vers la personne ou les personnes de leur famille supposées être capables de résoudre tous les problèmes. Parce que, comme vous le savez, ce qu'on paye aux retraités dans notre société, c'est vraiment dérisoire.
Dérisoire,
on ne peut pas leur permettre de tenir pendant 2 jours. Il y a également l'insuffisance du salaire. Le salaire qu'on paye étant insuffisant, il faut essayer de compléter en recourant aux membres de famille. Et enfin, comme dernière cause que j'ai retenue ici, il y a la caricaturation de la solidarité clanique. Les gens pensent que on doit absolument, celui qui est en vue, celui qui a des moyens, a l'obligation de pourvoir aux besoins des membres de sa famille. Et cela n'est pas sans conséquence sur la vie même de la personne concernée. Voilà donc un peu, j'ai construit quelques-unes des causes qui font ce phénomène-là.
Certains auditeurs nous ont écrit, professeur, pour parler que dans certaines familles, dans certains coins du pays, on parle du phénomène codiage, c'est-à-dire par des procédés qu'on n'arrive pas à expliquer, on prend les chances de tout le monde et qu'on va accorder à cette personne qui va exceller, qui aura beaucoup d'argent dans la société et qui, enfin, va aider les autres. Avez-vous déjà entendu parler de cela, professeur?
Oui, en fait, c'est comme l'investissement, quoi. on forme quelqu'un, par exemple, on paye ses études, on cotise pour que ce monsieur ou cette dame aille aux études. Et une fois sorti des études, une fois trouvé un emploi, cette personne-là est censée retourner l'ascenseur, comme on dit, pour que les autres membres de la famille en bénéficient aussi. C'est le cas également de ceux qu'on envoie en Europe. On cotise, parfois on vend des parcelles pour envoyer quelqu'un en Europe, de sorte qu'une fois celui-ci arrivé en Europe, et qu'il appelle d'autres personnes en Europe, sinon qu'il aide sa famille ou sa famille au sens large, hein, ici au Congo ou bien en Afrique. Donc ce sont des phénomènes qui existent effectivement.
Voilà. Nous avons un premier auditeur en ligne, Nat Moussolé. Il nous appelle de Kinshasa. Nous parlons aujourd'hui du phénomène des parasites en famille, hein, des gens qui comptent seulement sur les autres, sur un frère, une sœur qui a beaucoup d'argent, et c'est l'homme solution, comme l'a dit le professeur tout à l'heure. Nat est à Kinshasa. Vous voulez également participer? Composez le 081-890-6394.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Couté sur Radio Okapi.
Phénomène Likundi à famille. Voilà, on en parle aujourd'hui avec professeur Adela Kwandaka. Vous avez des questions et préoccupations, appelez-nous au 081-890-6394 pour participer. Nat Moussole, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour Jody.
On vous écoute, Nat.
Ok, je vous remercie pour m'avoir accordé la parole. Et je salue aussi l'invité qui est présent. Et je tiens aussi, depuis 2014, je n'ai pas encore eu la parole à passer à l'émission. Je tiens à vous souhaiter à vous...
Merci Nathan.
Alors, je tiens à poser une question.
Oui.
Que j'ai à constater parmi bon nombre de familles. Alors, il y a des familles où il y a une parapluie, hein, une personne dont la famille compte.
Oui.
Mais nous remarquons que cette personne est loin d'être l'aînée de la famille. Peut-être il peut être le second ou bien même le cadet. Mais quand il y a un problème qui surgit au sein de la famille, c'est lui qui a la mainmise ou les derniers mots à dire.
Mmh.
Mais il y a l'aîné dont sa parole n'est pas prise en compte. Non. Dites-moi maintenant, dites-nous, en bref, c'est quel phénomène? Est-ce que c'est rentable ou bien c'est pas rentable? Merci beaucoup, Jody.
Oui, merci Nat. Platini Mbombo, vous êtes à Mbandaka, bonjour.
Bonjour Jeudi, bonjour à l'invité, bonjour également à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Voilà, nous parlons aujourd'hui du phénomène Likundi à famille. Il y a une personne sur qui toute la famille compte parce qu'elle a l'argent et elle aide tout le monde. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ça?
Voilà, merci beaucoup Jeudi. Moi je pense que le phénomène Likundi à famille, ça dépend de notre famille. Parce qu'il y a d'autres familles... Il y a une personne qui a beaucoup d'argent et toute la famille compte sur lui. Et moi, je voudrais juste poser l'invité une question. Et si la personne que la famille compte sur lui, s'il est mort, et quels sont les sorts de cette famille-là?
Voilà, merci. Professeur Adela.
Oui, merci beaucoup. Je commence par la deuxième question. Donc, si le Likundi en famille meurt,
oui.
Et qu'est-ce qui se passe? Mais c'est... Souvent, il y a des... Bon, ça dépend, hein, la façon dont les choses sont organisées. Si le Likundi en famille meurt, dans certaines familles, il y a des conflits, hein, autour de l'héritage, surtout s'il n'a pas laissé un testament holographe, c'est-à-dire un testament écrit.
Oui.
Il y a parfois des enfants qui sont chassés de la maison, etc. Donc, il y a des bandades, en fait, pour m'exprimer ainsi. Mmh. Et quand le Likundi en famille meurt... Mais quand la famille est organisée, si lui-même, le conseiller de la famille a laissé un testament, je crois que les choses peuvent aller plus ou moins calmement. Mais souvent, d'ailleurs, dans notre société, le testament écrit n'est pas respecté. Et ça, c'est une mentalité aussi. Il faudra que le pouvoir public vulgarise, n'est-ce pas, le contenu du code de la famille, notamment les dispositions en rapport avec les successions. Mmh. Alors, la première question qui concerne la personne parapluie, qui n'est pas nécessairement un aîné, je n'ai pas bien compris la question, qu'est-ce qu'il faut faire, mais...
Oui, il dit
en réalité, ce n'est pas nécessairement la personne la plus âgée qu'on considère comme l'icône de la famille. C'est la personne en vue, c'est la personne qui a un pouvoir social, qui a un pouvoir économique, et c'est cette personne-là. Ça peut être même le cadet de la famille.
Oui.
Donc, à partir du moment où il a un certain pouvoir économique, un certain pouvoir social, alors c'est son mot qui compte. Et on ne peut pas prendre une décision d'envergure dans une famille sans que l'icône de la famille est là, sans peu importe l'âge, sans que cette personne qui a le pouvoir économique soit associée ou bien dise son dernier mot.
Voilà. Rachel Ndjundjou nous appelle depuis Siro. Bonjour.
Allô, bonjour.
On vous écoute, Rachel.
Oui, j'ai une petite question posée à l'invité. C'est un constat que moi je fais. La plupart de ces gens-là qu'on appelle les conseillers à famille, ces gens-là ne durent jamais. Et ils meurent toujours avant l'État. La plupart des gens, vous allez voir dans des dents, on dit que non, c'est lui qui supportait sa famille, mais donc la mort le trouve un peu vite là. Alors, j'aimerais un peu savoir, c'est dit à quoi? Est-ce que c'est pas parce qu'il y a d'autres gens dans la famille qui ont la jalousie peut-être, ou qui pratiquent la sorcellerie, c'est pourquoi ils ont peut-être tranquille là, parce qu'il est le conseiller à la famille ou comment?
Voilà, Rachel nous dit que ces gens, ces personnes, les conduits à la famille meurent souvent, un peu tôt. Est-ce que c'est parce qu'il y a des mécontents dans la famille qui peuvent les détruire en utilisant la sorcellerie, d'après elle, professeur Adela?
Oui, cela exige une étude. Hein. Nous, ici, généralement, on ne peut pas affirmer des choses qui ne sont pas documentées. Il faudra qu'on sache un peu, parce que bon, les maraboutages, la sorcellerie, on en parle dans notre société, mais ce sont des choses qui se passent de façon secrète, de façon cachée.
Il n'y a pas de preuves.
Il est difficile de dire que ces gens meurent parce qu'ils sont enviés ou ils sont quoi. On peut tout simplement faire des hypothèses. On peut peut-être dire que, on peut constater que ces gens qui ont un pouvoir économique ou social important, peut-être qu'ils en abusent aussi eux-mêmes par une certaine extravagance qui peut les amener à attraper des maladies ou à mourir accidentellement ou à connaître des difficultés liées au surménage ou des maladies comme l'hypertension, l'arrêt cardiaque, etc. C'est-à-dire qu'ils sont saturés de questions, peut-être de demandes, ils sont saturés de sollicitations, peut-être qu'ils n'ont pas le temps nécessaire à de s'occuper d'eux-mêmes, de se reposer, etc. Donc ça, c'est en termes de conjecture, en termes d'hypothèse, tout simplement. Donc je crois que c'est ça. Si cela peut être le cas, c'est qu'on peut explorer de ce côté-là.
Mmh. Patient Paul nous appelle de Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, patient, si vous êtes à côté de votre radio, veuillez vous en éloigner ou bien fermer carrément votre radio. Vous allez suivre en partie de votre téléphone pour éviter les effets de l'arsène à l'antenne. C'est fait?
Oui.
D'accord, allez-y.
Oui, bonjour aussi à l'invité, ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio. Oui, chez nous en Afrique, surtout au Congo, ce système-là,
Patient, il y a beaucoup de...
prendre toute l'Afrique, toute la famille en charge, bas record.
Patient?
Oui, allô?
Il y a beaucoup de bruit là où vous êtes. Vous êtes
allô?
Oui, il y a beaucoup de bruit tout autour de vous, patient.
Oui, j'essaie un peu de me positionner donc à un endroit là meilleur.
D'accord, allez-y maintenant.
Oui, chez nous en Afrique, surtout au Congo,
oui.
Ce système-là, donc, de prendre toute la famille en charge, bas record. Mais d'autres membres de la famille se laissent voler leur rang ou personnalité, donc tellement à partir de ces messieurs-là lui conseillent, donc tellement qu'ils supportent toute la famille,
oui.
Il y a moins de possibilités, donc ils n'avancent pas, parce qu'il est garant. À notre invité, donc, j'aimerais savoir, si cette personne tombe malade, ou toutes ses activités sont échouent, qui serait responsable? Parce que tout le monde comptait sur lui. Et en Afrique, on aime trop la facilité et la gratuité. On n'aime pas se supporter du fait qu'il y a solidarité, même si on n'envisage plus l'avenir.
Voilà.
Surtout facilité, gratuité, donc, parce qu'on a tel, mais c'est pour cela qu'on se rend toujours faible.
Voilà.
Merci.
Merci, patient. Professeur, alors, il dit cette personne est conduite à la famille, elle peut tomber malade un jour, et puis où ses activités s'écroulent, et on ne verra pas personne, personne ne viendra l'aider à ce moment-là. Et on a l'impression que la famille, c'est une sorte de pesanteur, on les tire vers le bas.
Et justement, voilà, vous avez bien donné l'expression, c'est... Le nivellement vers le bas, ça c'est une des conséquences, n'est-ce pas, de ce phénomène-là.
Oui.
Nivellement vers le bas, quand le bailleur doit toujours redistribuer son argent, son revenu, il ne s'oublie pas de lui-même, il s'appauvrit même. Il s'appauvrit de sorte que, pour revenir à la question de tout à l'heure, il est assailli par des problèmes, par des sollicitations. Il peut arriver qu'il pique une crise, hypertension, un arrêt cardiaque, et s'il meurt, personne même ne va s'en occuper. Donc, le nivellement vers le bas, c'est une des conséquences, n'est-ce pas, de ce phénomène-là.
Et cette famille a sa famille aussi. Cette personne a sa famille, sa femme et ses enfants. Peut-être que ça peut provoquer des querelles avec sa femme parce qu'il est tout le temps en train de donner aux autres.
Oui, justement, c'est une autre conséquence liée aux conflits familiaux. Donc, souvent, quand ils donnent comme ça aux autres, ça peut créer de discordes, de mésententes entre lui et son épouse, entre lui et ses enfants. Parce que parfois, il peut négliger ses propres enfants pour présenter, pour préserver son image de chef de famille, de leader, enfin, de la famille à l'extérieur, quoi, dans le clan ou bien dans le lignage.
Oui.
Et puis l'autre conséquence aussi, c'est comme l'auditeur l'a dit tout à l'heure, c'est l'oisiveté, la mentalité d'éternel assisté. Il y a des gens comme ça qu'on assiste et qui croient qu'ils doivent toujours être assistés et qui s'adonnent au culte de la facilité.
Oui.
Donc c'est tout ça qui. C'est tout ça des conséquences. De ce phénomène-là.
Ismaël Mumpoy nous appelle de Lubumbashi et Madame Justine est également à Lubumbashi. On va commencer avec Ismaël. Bonjour.
Je suis Daniel Tachan.
On vous écoute. On parle aujourd'hui du phénomène des condis à famille. Une personne dans la famille qui prend en charge tout le monde, sur qui tout le monde compte parce qu'elle a des moyens, elle a de l'argent, elle a de l'influence. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire?
Moi, je réponds, ça, j'ai contribué du sens que celui qui supporte soit presque deux familles, la famille élargie, la famille restreinte, devait d'abord faire en sorte à ce qu'il puisse aussi s'épanouir de cette responsabilité.
Est-ce que est-ce qu'à Lubumbashi, c'est fréquent, ce genre de situation?
Bien sûr que oui. Et surtout ceux qui sont engagés dans des grandes entreprises, ils ont beaucoup de responsabilités. Ils ne cherchent pas par tous les moyens pour aussi s'épauler. De quelle façon? De la façon dont je peux aussi poser la question à l'invité, mais pourquoi celui-là ne peut pas aussi faire en sorte à ce que ces derniers, soit les membres de sa famille, peuvent aussi avoir même un petit emploi en vie qui puisse aussi s'épanouir aussi à ses besoins. Car juste quand tu meurs, ça sera aussi des disputes et des problèmes. Premièrement, la parcelle doit être écrite, cette parcelle n'est pas à vendre. Sinon, moi je demande à l'invité, mais pourquoi ces derniers ne peuvent pas faire en sorte à ce que ces derniers soient aussi engagés pour qu'ils puissent aussi commencer à s'épanouir aussi à ses besoins. La deuxième question, l'amour est certain. Bon, une personne peut mourir, bien sûr. Mais les conditions qui font en sorte à ce que quelqu'un peut mourir, pourquoi par exemple d'autres avec cet argent, ce ne sont pas l'argent propre. Ce sont d'argent qu'on cherche d'une manière malhonnête. De se faire même pour donner cet argent, pour donner même à ses membres de... Il a fallu en sorte à ce qu'il prenne ses amis en vue maintenant de donner à ses gens de famille. Sinon, s'il s'est conduit, c'est bien sûr ici, juste ceux qui sont à la douane. Si vous allez à Kasumbalé, c'est toujours à 18 ans,
oui.
À 20 ans, plus tard à 25 ans, soit à 30 ans. Ce sont des garçons qui meurent. Pourquoi? Parce qu'ils ont un mandat. Et là, c'est concret, propre, quelqu'un de Saint-Jean peut mourir. Merci beaucoup.
Non, Ismaël, Ismaël, vous voulez dire qu'il y a des gens à la douane, à Kasumbalé, ça, qui ont des fétiches, et ils ont de l'argent pendant un moment, et d'après les contrats signés avec les féticheurs, ils meurent trop jeunes.
c'est sûr et certain. Même l'enquête peut assurer cette affaire, ce que je viens de dire. Fonctionne par exemple du côté musulman. Là, on va voir réellement que les garçons et ceux qui ont beaucoup d'argent, ils peuvent entrer à la douane aujourd'hui. Après 2 mois, il a une grosse dette. Mais après 2 ans, 3 ans, il n'est plus. C'est un phénomène correct. Pourquoi? Parce que l'argent que nous cherchons à aider même nos membres de la famille, ce ne sont pas l'argent d'une manière correcte. Et ces genres de personnes, ils sont toujours soumis à mourir.
Voilà.
Merci beaucoup, à nous revoir après 2 semaines.
Bon, on va pas se revoir, vous êtes Hakim. Peut-être si vous venez, Hakim, on va se revoir. Sinon, on va se retrouver encore sur...
Je sors le pays, je dis.
Comment?
Je sors le pays, je vais en Zambie.
Ah, vous allez en Zambie, bon. Merci, bon voyage. Madame Justine, vous êtes également à Lubumbashi, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Jody Kachama.
On vous écoute, madame.
Oui, merci pour la parole, monsieur Jody. Bon, le sujet parle des parasites dans certaines familles.
Oui.
Oui. Alors, moi, je dirais que parfois, on se retrouve avec des parasites qui ne sont pas des adultes ou quoi, qui sont des personnes vulnérables. Mmh. Je voulais dire ceci. Quand, par exemple, quelqu'un meurt, un membre de famille meurt, il laisse des enfants, des orphelins.
Mmh.
Bon, on peut rester avec ces orphelins-là, pas nécessairement, parce qu'on est quoi, l'Ikonzi ou quoi là.
Mmh.
Oui, pas nécessairement parce qu'on est l'Ikonzi, mais tout simplement parce qu'on se retrouve devant un fait accompli. Un frère meurt, il laisse des enfants, des orphelins. Maintenant, dans ce cas-là, je voulais demander à l'invité, qu'est-ce qu'il faut faire si on se retrouve avec les orphelins de son frère, ce sont des personnes vulnérables, ce sont des enfants pour qui on doit payer les études. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Faut-il les envoyer à l'orphelinat ou bien faut-il partager le peu qu'on a en famille? Tout ça, c'est un peu compliqué parce qu'en partageant aussi, la personne se retrouve... Bon, on se sacrifie un peu pour eux. Ma question est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire quand on se retrouve dans une telle situation.
D'accord. Merci, Madame Justine de Lubumbashi. Albert, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Jody Daniel Kachama. Et bonjour à notre invité.
Voilà, on parle aujourd'hui des parasites en famille, hein, les gens qui ne comptent que sur un frère qui a beaucoup de moyens, qu'on appelle l'Ikondi à famille, ou bien l'homme solution, la dame solution. Qu'est-ce que vous voulez nous dire?
Oui, merci beaucoup. C'était un sujet vraiment très intéressant. Je passe à la première question. Comme nous sommes les étudiants, vous savez que nous sommes totalement dépendants de ces gens-là, donc les gens qui ont des moyens, appelés autrement, qu'on est à famille. Alors, quand nous nous dépendons, c'est à eux que nous avons donné vraiment l'espoir. Sans eux, on ne peut pas même étudier. J'aimerais demander à notre invité, vraiment, on fait par nous. Nous sommes... De quelle catégorie? Des parasites ou bien comment il fait nous classer là-dessus? J'aimerais qu'il puisse un peu nous éclairer là-dessus parce que j'aimerais faire la constitution entre parasites. De quelle catégorie?
Alors, oui, Albert, vous voulez dire que vous, par exemple, vous comptez sur un frère de la famille qui paye vos études, c'est ça?
Oui, qui paye les études, qui supporte tout. Sauf rien, il supporte. Alors parasite ou comment?
D'accord, merci. Professeur Adela.
Oui, je commence par l'étudiant. Je crois que les étudiants, ce sont des enfants, ce sont des personnes à charge, comme des vieillards sont des personnes à charge. Les étudiants ne peuvent pas être considérés comme des parasites. Ce sont des enfants qui sont en formation, qui sont pris en charge par leurs parents. Et la personne, le conseiller à famille, là, c'est un membre de famille qui prend en charge des personnes qui ne sont pas encore autonomes pour se prendre en charge eux-mêmes. Et ça, c'est d'une part. D'autre part, c'est cette façon de prendre en charge aussi les étudiants, c'est en fait un investissement, non seulement pour ces étudiants pris en charge, mais aussi pour la famille. De sorte que le conseiller à famille puisse diversifier aussi le moyen pour qu'il ne soit pas seul à prendre en charge tous les membres de sa famille. La deuxième question concerne les orphelins d'un frère.
Oui. Enfin,
les orphelins, c'est pratiquement dans le même cadre, il faut les prendre en charge. Ce sont des enfants vulnérables qui n'ont pas quelqu'un qui peut les prendre en charge. Il faut les prendre en charge pour les scolariser, les nourrir, les loger, etc. Le phénomène d'orphelinat chez nous n'est pas a échoué parce que les enfants africains, les enfants congolais ne sont pas généralement pas orphelins au sens occidental du terme. Parce que quand le père meurt ou la mère meurt, c'est toujours la sœur ou le frère qui prend en charge, qui est papa lui, qui est papa pour etc. Donc là, il faut qu'on ne fait aucun tort en prenant en charge les enfants orphelins laissés par un frère ou une sœur, malgré que souvent il y a des conflits qui surgissent entre ces enfants-là et les propres enfants de la famille. Et la dernière question d'Ismaël.
Oui, Ismaël dit, pourquoi ne pas aider les autres membres des familles, les rendre indépendants, les aider à s'épanouir, à commencer leur activité pour ne plus dépendre du Likondi à famille?
Moi, je crois que c'est nécessaire, quand on est Likondi à famille, on n'est pas nécessairement producteur ou propriétaire d'une entreprise ou dans laquelle on travaille. On n'est pas nécessairement les capacités, disons, pour engager ou recruter les membres de sa famille. Mmh. Je crois qu'il y a de ces gens qui ont des moyens, qui aident leur famille à monter une activité. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que ceux à qui on donne le moyen pour créer une petite activité productrice de revenus,
oui.
Souvent, ils gèrent mal et puis ne comptent toujours que sur le Likondi à famille en question. Mais sinon, le Likondi à famille n'est pas nécessairement quelqu'un qui peut recruter, parce que ça peut être un homme d'affaires, hein, quelqu'un qui fait son affaire,
oui.
Ça peut être quelqu'un qui est dans une entreprise, mais qui n'a pas toujours la possibilité de recruter dans la même entreprise. Donc, c'est ça.
Voilà, et voilà, Ismaël nous révèle qu'au Katanga, il y a des gens, des jeunes gens qui travaillent à la douane, qui signent des pactes avec le diable, et puis à un moment, ils ont beaucoup d'argent, et après, lorsque le pacte arrive à délai, ils atteignent le délai, bon, ils décèdent comme ça dans des conditions, bon, ça, c'est ce qu'il nous révèle. Je ne sais pas si vous avez un commentaire là-dessus.
Oui, ça, c'est toujours le marmottage des secrets sur lesquels on n'a pas prise. On ne sait pas exactement ce qui se passe avec ces gens-là, parce que la sorcellerie, la magie, etc., ça fait partie du monde, disons, secret, qu'on ne perçoit pas toujours par nous qui avons, par nous qui sommes des scientifiques. Mmh. Seulement, ce que je peux dire ici est que les gens, quand ils ont l'argent, notamment quand ils sont très jeunes, ils parlent des enfants de 18-19 ans, quand ils sont très jeunes et ils ont les moyens, ils se livrent à toutes les extravagances. Et ce sont ces extravagances-là qui peuvent peut-être le conduire à la mort. Ils peuvent attraper une maladie, par exemple le sida, ils peuvent faire un accident mortel, etc. Donc c'est l'extravagance, c'est ça qui peut être avancé comme hypothèse sur le plan scientifique.
Bien, alors Berry Franklin Luchaka, il est en contact avec les internautes sur la page Facebook d'Okapi Service. Berry, bonjour. Oui, bonjour.
Bonjour encore une fois, jeudi, et oui. Bonjour à tous.
Alors, qu'est-ce que les auditeurs disent sur Facebook?
370 personnes ont vu la publication et étaient en train de commenter et suivaient d'ailleurs attentivement cette émission.
Ah, intéressant.
Nous avons sélectionné quelques-unes de ces réactions.
D'accord.
Christian Junior Nzepo dit que ce n'est pas la plupart des Kinois qui aiment voyager, mais beaucoup de Congolais. En général, la plupart des Congolais en général, parce qu'il faut bien regarder les statistiques, c'est les deux Katanga, le Kasaï et les deux Kasaï où les ressortissants vont plus en Europe. Hervé Calis.
Là, c'est par rapport à quel sujet?
Ben, il était en train d'expliquer par rapport justement à ce phénomène-là pour aller quand on va en Europe et puis on revient ici à Kinshasa pour essayer de faire un peu le phénomène Likondi, quoi.
Alors. Ah, il dit que ce sont les gens qui sont en Europe qui deviennent des Likondi à famille.
Bien
c'est
sûr.
Eux qui aident leur famille et restent au pays.
Voilà. Alors. Hervé Calis de Kinshasa se demande pourquoi il faut toujours voyager pour finalement devenir Likondi à famille. Jean de Dieu Mambourigo, qui écrit depuis New Delhi, dit qu'il est capital de remédier à cette pratique parce que la main qui donne est au-dessus. Donc, celui qui assiste vous impose aussi sa volonté, quelle que soit sa nature. Noëlla Love estime que les gens qui font le Likondi doivent utiliser ce principe-ci. Apprends-moi à pêcher, je n'aurai pas faim. Et puis, Fidèle de Goma nous dit que la vie parasite parasite est causé parfois par la faiblesse d'esprit et la négligence et de la plupart des Congolais. Voilà un peu en gros ce que disent les Congolais et les Kinois sur la page Facebook de l'émission.
Merci Berry Franklin Ouchaka, professeur Adela Kwanzaka, vous avez suivi. Généralement, ceux qui vont en Europe, ils deviennent les Likondi à famille parce que tout le monde compte sur les frères ou la sœur qui est en Europe. On l'appelle à tout moment pour envoyer de l'argent.
Oui, effectivement, il y a, bien sûr, il y a, c'est une partie des Likondi à famille, hein, mais pas nécessairement. Les Likondi à famille, il y en a ici. Il y en a qui font, il y en a qui viennent de l'Angola.
Oui.
Pas dans les zones minières. Il y en a qui travaillent ici sur place. On a parlé de personnes qui travaillent dans les entreprises. Il y en a qui sont en politique. Parce que dans notre société aujourd'hui, la politique paye bien. Donc, les Likondi à famille se recrutent dans tous les métiers juteux. Alors, parmi les internautes, là, j'ai entendu quelques suggestions en rapport avec la sortie de crise ou la comme piste de solution, quoi.
Oui.
Je crois que ici, j'en ai aussi, j'ai quelques pistes de solution, notamment l'autonomisation sociale, hein, qui puisse permettre à chaque citoyen de faire face à ses besoins primaires. Et là, cette autonomisation, c'est pas l'individu qui doit le faire tout seul, peut-être, il doit y contribuer, mais il y a l'État qui doit faire en sorte que la plupart des gens qui sont dans le pays ne soient pas au chômage, notamment les jeunes gens. Donc, il faut que l'État lutte contre le chômage à la création d'emplois. Il faudra également que l'État réorganise la retraite pour permettre aux personnes pensionnées de vivre dignement, en toute indépendance. Parce que ces gens-là, parfois aussi, quand ils sont pensionnés comme ça, après avoir rendu de leur service à la nation, ce sont des gens qui sont abandonnés avec de maigres frais de pension. Et parfois, ils sont qualifiés de sorciers par les membres de leur famille. Ce n'est pas bon.
Oui.
Il faudra également assurer aux travailleurs un salaire décent pour qu'ils soient à l'abri de ces phénomènes, à l'abri de la mendicité, à l'abri de la clochardisation qui peut inviter les Likondi à famille à intervenir.
Voilà, ce sont là les solutions pour mettre fin à ces situations. Il y a Berry qui a lu la réaction d'un auditeur qui dit « Apprends-moi à pêcher et je n'aurai plus à te demander ». Voilà.
Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est ça que j'ai appelé l'autonomisation.
L'autonomisation
sociale. Il faut permettre à chacun d'être indépendant, de vivre de façon autonome, de sorte que les membres de famille n'interviennent que dans des circonstances vraiment particulières qui engagent le concours de chacun et de tous.
Professeur Adela Kwanzaka, sociologue, merci et à la prochaine.
Merci beaucoup.